Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 6 mars 2025. En direct de Washington, Rosine Munezero. Pour commencer, les titres. En Guinée, le chef du gouvernement a annoncé mercredi à la presse un référendum et des élections présidentielles et législatives en 2025. Les avocats camerounais ont lancé hier, mercredi, 3 jours de suspension du port de la robe pour protester contre les violences policières visant leur profession. Les présidents ivoiriens et ghanéens appellent le Mali, le Burkina Faso et le Niger à réintégrer la CEDEAO. Les États-Unis ont eu des contacts secrets directs avec le Hamas en consultation avec Israël. Et dans notre partie magazine, nous irons au Sénégal pour parler du drame environnemental qui menace le littoral de Banyerine.
Ça sont des pneus, des sacs de riz vides remplis de sable. Nous sommes fatigués, voilà.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le chef du gouvernement guinéen a annoncé mercredi à la presse un référendum et des élections présidentielles et législatives en 2025, après que les militaires au pouvoir depuis 2021 ont manqué à leur engagement de rendre le pouvoir au civil en 2024. Les précisions de John Lindon.
Il faut retenir qu'en 2025, le retour à l'ordre constitutionnel sera effectif avec l'organisation du référendum constitutionnel et des élections présidentielles et législatives, a déclaré le premier ministre Amadou Ouriba au cours d'une conférence de presse à Conakry. La principale difficulté que nous devons surmonter, c'est la constitution et le fichier électoral, a-t-il indiqué. Le général Mamadi Doumbouya, à la tête de la junte, avait promis dans ses vœux du nouvel an que 2025 serait une année électorale cruciale pour parachever le retour à l'ordre constitutionnel, mais les autorités n'avaient jusqu'alors donné aucune indication des calendriers. Des proches du chef de la junte poussent pour que Mamadi Doumbouya soit candidat à la présidentielle, même si celui-ci a de multiples reprises assuré qu'il ne se présenterait pas. La charte de transition établie par la junte peu après le coup d'État impose qu'aucun membre de la junte, du gouvernement ou responsable des institutions républicaines ne se présente aux élections.
Le chef de l'État togolais, Fornia Simbe, a nommé mercredi soir 20 sénateurs, complétant la liste des sénateurs requis pour la mise en œuvre de la nouvelle constitution, indique un décret lu à la télévision d'État. Cette nomination complète les 41 sénateurs déjà élus le 15 février et marque la dernière étape dans la mise en œuvre de la nouvelle constitution adoptée en avril 2024 qui abolit l'élection du chef de l'État au suffrage universel et institue un régime parlementaire. Le Sénat, composé de 61 membres au total, dont 20 désignés par le président de la République et l'Assemblée nationale, éliront un président de la République sans réelle prérogative. Les avocats camerounais ont lancé hier, mercredi, 3 jours de suspension du port de la robe en désertant les prétoires pour protester contre les violences policières visant leur profession. Le point avec Eric Manilakiza.
La protestation a été impulsée par le Conseil de l'Ordre des avocats qui a dénoncé dans un communiqué les violences physiques, barbarie et autres traitements humiliants contre les avocats. Mercredi, plusieurs tribunaux de Yaoundé sont restés déserts, selon l'AFP. Dans ce communiqué, le bâtonnier de l'Ordre Mba, Eric Mba, fait état de 2 cas survenus vendredi et samedi. Le Conseil de l'Ordre a décidé d'engager des poursuites judiciaires pour que les auteurs puissent répondre de leurs actes en appelant les avocats à se mobiliser. Mi-novembre, l'Ordre camerounais avait déjà protesté contre des violences policières visant un avocat hospitalisé après avoir été interpellé par des gendarmes à Douala, la capitale économique du pays. Les agressions contre les avocats dans les unités de police et de gendarmerie deviennent progressivement la norme, avait pointé un communiqué dénonçant une dérive liberticide. Human Rights Watch a récemment dénoncé le contexte de répression gouvernementale croissante contre l'opposition et la dissidence depuis le milieu de l'année 2024, avant l'élection présidentielle prévue en octobre prochain.
Les présidents ivoiriens Alassane Ouattara et ghanéen John Dramani Mahama ont appelé hier le Mali, le Burkina Faso et le Niger à réintégrer la CEDEAO après leur retrait en 2024. Ils se sont engagés à œuvrer pour une plus grande démocratie et renforcer l'unité régionale face aux défis communs. Nani Talani nous en dit plus.
Je me propose d'être un pont entre la CEDEAO et les trois pays pour voir comment nous pouvons travailler ensemble pour qu'ils restent dans la sous-région et faire une transition vers la démocratie constitutionnelle, a déclaré M. Mahama à l'occasion d'une visite à Abidjan. Je souhaite que l'appel du président Mahama puisse être entendu par ces trois pays frères, que nous puissions continuer ensemble au sein de la CEDEAO, a ajouté M. Ouattara lors d'un point de presse commun. En janvier 2024, le Niger, le Burkina Faso et le Mali ont claqué la porte de la CEDEAO, l'accusant entre autres de ne pas les avoir assez aidés dans la lutte contre les violences djihadistes. La décision a pris effet le 29 janvier dernier. Nous sommes prêts à les aider à combattre le terrorisme, car nous savons tous que quand la maison de votre voisin brûle, il faut l'aider à éteindre le feu avant qu'il se propage chez vous. Il y a plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous divisent, a déclaré mercredi M. Mahama, qui a affirmé vouloir se rendre prochainement dans les trois pays. La rupture entre l'AES et la CEDEAO s'est faite après le coup d'État au Niger en 2023, lorsque l'organisation ouest-africaine avait menacé d'intervenir militairement et imposé de lourdes sanctions économiques à Niamey, levées depuis.
Au Mozambique, un rassemblement de l'opposant Venancio Mondlane en tournée pour promouvoir son nouveau parti a été dispersé à Balreyel à Maputo, faisant 14 blessés, dont 2 enfants, selon l'ONG Plataforma Decide. La police a utilisé des balles réelles et des gaz lacrymogènes pour interrompre la marche diffusée en direct sur les réseaux sociaux. Mondlane, revendiquant la victoire électorale malgré les irrégularités, promeut actuellement son nouveau parti, l'Alliance nationale pour un Mozambique autonome et libre.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis ont eu des contacts secrets directs avec le Hamas en consultation avec Israël, a confirmé mercredi la Maison-Blanche. Israël l'a aussi confirmé. Les détails avec Eddie Isango.
Sur ces contacts directs révélés en premier par les sites Axios, la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a répondu que l'envoyé spécial pour les otages, Adam Boehler, engagé dans ces négociations, a l'autorité de parler à n'importe qui. Des vies américaines sont en jeu, a-t-elle souligné. Selon Axios, l'envoyé spécial américain a eu ses entretiens directs au cours des dernières semaines à Doha. Washington n'avait jamais eu auparavant des pourparlers directs avec des groupes qu'il considère comme terroristes. Selon Axios, Washington et les Hamas ont discuté de la libération des otages américains encore détenus par les Hamas dans la bande de Gaza, mais aussi de la libération de tous les otages restants ainsi que de la possibilité d'un cessez-le-feu permanent. Aucun accord n'a été conclu. Après plus de 16 mois de guerre, la trêve a jusqu'à présent permis le retour des 33 otages retenus à Gaza depuis l'attaque du 7 octobre et la libération de quelques 1800 Palestiniens ainsi que l'entrée d'aide humanitaire dans les territoires assiégés. Israël souhaite une extension de la première phase de la trêve jusqu'à mi-avril pour permettre la libération des otages restants à Gaza et réclame à terme la démilitarisation totale du territoire et l'élimination du Hamas. Le Hamas réclame la mise en œuvre de la deuxième étape de l'accord, censée aboutir à un cessez-le-feu permanent, mais insiste pour rester dans les territoires qu'il dirige depuis 2007.
Par ailleurs, Donald Trump a lancé mercredi un dernier avertissement au Hamas de libérer les otages, sans quoi le peuple de Gaza risque la mort. Le jour même où Washington a confirmé avoir eu des contacts directs avec le mouvement islamiste palestinien. Au peuple de Gaza, un bel avenir vous attend, mais pas si vous gardez des otages. Si vous le faites, vous êtes mort. Prenez une bonne décision, a menacé le président américain dans un message sur son réseau Truth Social. Il a encore dit envoyé à Israël tout ce dont il a besoin pour finir le travail à Gaza, soulignant qu'aucun membre du Hamas ne sera en sécurité si vous ne faites pas ce que je dis. à l'heure où la trêve dans la bande de Gaza semble menacée. Le vice-président américain J.D. Vance s'est rendu à la frontière américano-mexicaine mercredi pour une visite destinée à vanter la vaste offensive anti-immigration lancée par Donald Trump depuis son retour au pouvoir. Son déplacement se déroule au lendemain d'un discours de M. Trump devant le Congrès dans lequel il a défendu son action pour revenir sur ce qu'il considère comme la politique de frontière ouverte menée précédemment par l'ex-président Joe Biden. Voilà pour le journal. Vous suivez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec John Lindon.
La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a annoncé une baisse de l'inflation à 3,5% en 2024 contre 3,7% en 2023. C'était lors de l'ouverture de la première réunion annuelle du Comité de politique monétaire tenue le 5 mars 2025 sous la présidence de Jean-Claude Cassibrou. Le Cameroun a mobilisé 1 967,1 milliards de francs CFA entre 2020 et 2024, selon le site Ecomatin. Ces fonds devraient servir à financer des programmes routiers intégrateurs en zone CEMAC. Le ministre des Travaux publics évoque notamment le projet de facilitation des transports et le projet multimodal Cameroun. D'ici 2030, le trafic mensuel de données par connexion mobile devrait presque quadrupler en Afrique subsaharienne. Selon l'agence Ecofin, qui cite l'Association mondiale des opérateurs de téléphonie mobile, cette croissance sera favorisée par plusieurs facteurs, notamment l'extension de la couverture des réseaux de téléphonie mobile à haut débit ou encore la demande croissante de contenu à forte intensité de données, tels que les jeux et le streaming vidéo. C'était la Minute Éco avec John Lindon pour VO Afrique.
Place maintenant sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Rosine, bonjour à tous.
La FIFA promet un pactole $1 milliard aux 32 qualifiés pour le Mondial des clubs.
Oui, la Fédération internationale de football a promis une dotation record $1 milliard aux 32 équipes participant à la Coupe du monde des clubs qui aura lieu du 14 juin au 13 juillet ici aux États-Unis. Aucune précision n'a été apportée pour l'instant au sujet de la répartition exacte de cette manne entre les 32 clubs en lice. En plus du milliard promis aux équipes qualifiées, un mécanisme de solidarité sera mis en place pour reverser le reste des recettes de la compétition, estimé à $2 milliards par la FIFA, aux autres clubs de la planète. La Coupe du monde des clubs ne sera pas seulement le summum du football interclub, mais aussi une démonstration éclatante de solidarité qui profitera aux clubs dans leur ensemble à une échelle qu'aucune autre compétition n'a jamais connue. La FIFA ne conservera pas un seul dollar, a commenté le président de l'instance, Gianni Infantino, qui a aussi officialisé l'organisation d'un tournoi similaire pour les femmes en 2028.
Pour ce qui est du Mondial 2026, toujours, la FIFA annonce un spectacle à la mi-temps lors de la finale.
Le président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino, a annoncé la tenue du tout premier spectacle à la mi-temps de la finale du Mondial 2026 dans la banlieue de New York, à la manière du Super Bowl. En septembre 2024 à New York, lorsque la FIFA avait dévoilé les stades retenus pour la Coupe du monde des clubs, qui se tiendra cet été aux États-Unis, Gianni Infantino avait déjà parlé d'un spectacle inédit à la mi-temps de la finale de la compétition. Il était alors accompagné de l'acteur Hugo Jackman, de DJ Khaled et de l'animatrice Gayle King. Se posent néanmoins les modalités et la durée de ces shows annoncées, une mi-temps de football ne pouvant légalement pas durer plus longtemps qu'un quart d'heure, bien moins longtemps que celle de la finale du Super Bowl. Le prochain mondial de football est co-organisé par les États-Unis avec le Canada et le Mexique, du 11 juin au 19 juillet 2026.
Athlétisme, des progrès au Kenya dans la lutte contre le dopage, selon Sébastien Coé.
Le Kenya, en proie à de nombreux cas de dopage ces dernières années, fait des progrès dans sa lutte en matière de dopage. C'est l'affirmation faite hier à Nairobi par le président de la Fédération internationale d'athlétisme. À l'issue de rencontres avec des responsables, Sébastien Coé a adopté un ton plus positif que lors de sa dernière venue en janvier 2023, quand il avait déclaré que le chemin du Kenya contre le dopage serait long. Plus de 130 athlètes kenyans, des coureurs de longue distance notamment, ont été sanctionnés depuis 2017 pour des infractions aux règles antidopage. Le gouvernement a annoncé en avril 2023 qu'il investirait $25 millions sur 5 ans pour lutter contre le fléau, avant de réduire drastiquement cette somme en raison des coupes budgétaires. Sébastien Coué a affirmé que les progrès étaient évidents en matière de personnel antidopage, de tests, d'enquêtes et de programmes éducationnels. Le Britannique, double champion olympique du 1500 mètres dans les années 80, est candidat à la présidence du Comité international olympique qui fera l'objet d'un vote en Grèce le 20 mars.
Merci, Yacouba. De nouveau avec vous, Rosine Monezero. Nous passons maintenant à notre dossier du jour. Direction le Sénégal pour parler du drame environnemental qui menace le littoral de Barni. Usine polluante, déchets plastiques, cette commune située à une trentaine de kilomètres de Dakar vit un véritable drame écologique. Un désastre marqué également par une inquiétante érosion côtière. Reportage à Dakar, Doani Johnson Sambou.
Le calme apparent de la mer cache une réalité bien moins reluisante, celle d'une localité complètement défigurée par la furie des eaux. Des maisons abandonnées et d'autres en sursis. Un spectacle affligeant pour les populations de Barni, à une trentaine de kilomètres de Dakar. Ici, les habitants comme Deya Sinjeng assistent impuissants à l'effondrement de leurs habitations.
Là où nous sommes, c'était des maisons, mais tout est en boue. On est obligé, quand une maison tombe, une chambre tombe, on rejoint l'autre chambre. Ça sont des pneus, des sacs de riz, vides remplis de sable. Nous sommes fatigués, voilà.
Un ras-le-bol accentué par la présence de deux grands pollueurs, une cimenterie et une centrale à charbon. S'y ajoute un port minéralier et vraquier qui scandalise davantage les habitants et mobilise des activistes comme Medundoy Dimetza qui appellent l'État à réagir face à ce désastre écologique.
Aujourd'hui, nos gouvernants doivent imposer à ces entreprises le respect de l'environnement, c'est-à-dire respecter le code de l'environnement, investir dans la politique RSE et changer aussi la méthode de tir de mine, mettre des filtres. Et pour la centrale à charbon, il y a la possibilité de faire une transition énergétique.
Pour l'instant, les habitants ne peuvent que constater l'ampleur du drame écologique qui se joue sous leurs yeux. Ils semblent désarmés autant que les autorités municipales dont la politique environnementale peine à convaincre même les conseillers municipaux comme Salim Beng.
Les faits que nous constatons ici à Barni, c'est que la municipalité, des fois, elle noue des partenariats avec ses industries. Mais ce que je peux dire en termes d'appréciation, je dirais que la politique environnementale au niveau de la commune de Barni est très, très insuffisante par rapport à les défis.
Des défis qui concernent également la gestion des déchets plastiques, un autre signe des catastrophes environnementales qui étouffent le littoral de Barni. Nos tentatives de recueillir les réactions de certaines entreprises indexées sont restées sans suite. Wahani Johnson Sambou pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
L'État agricole de Benue, dans le centre-nord du Nigeria, est considéré comme le grenier du pays. L'insécurité a provoqué un déplacement massif des populations obligées d'abandonner leurs champs pour se réfugier dans les camps de déplacés. Une situation qui a contribué à exacerber l'insécurité alimentaire. Les autorités tentent de ramener ces déplacés dans leurs villages respectifs pour une reprise des activités agricoles. Notre correspondant au Nigeria, Gilbert Tamba, s'est rendu à Makurdi, la capitale de Benue. Son reportage.
Le camp des déplacés d'Abagina, situé à 10 km du centre-ville de Makurdi, la capitale de l'État de Benue, est l'un des camps de déplacés qui héberge encore plusieurs centaines de personnes déplacées de l'intérieur. Esta Ouda, chassée de son village, vit ici depuis plus de 10 ans. Elle ne cache pas son désir de rentrer chez elle.
Je veux retourner et reprendre mes activités agricoles et j'aimerais que le gouvernement nous aide avec certains matériaux comme des engrais, un peu d'argent et de la nourriture.
Comme elle, Asenda Festos souhaite aussi regagner son village pour lui permettre de reprendre ses activités.
Oui, je vais rentrer chez moi et cultiver, parce qu'en tant qu'homme, ma priorité est l'agriculture, donc je vais retourner et cultiver. La terre est si fertile. Depuis combien d'années? Cela fait 8 ans maintenant que personne n'a touché les terres. Nous allons certainement récolter beaucoup.
Le gouvernement de l'État s'est fixé comme objectif d'aider au retour massif des déplacés dans leurs villages respectifs, nous dit Salomon Iopev, responsable de la communication du gouverneur de l'État de Benue.
Tout d'abord, la sécurité. Donc, la première étape du plan durable est de s'assurer que la sécurité est prise en charge. Ensuite, s'assurer d'avoir de bonnes conditions de vie sociale où les écoles sont installées, les marchés ont rouvert, les hôpitaux, des postes de police, et tout cela pour garantir la sécurité quand les gens vont rentrer.
L'une de ces stratégies est la création d'une nouvelle unité de sécurité, appelée garde de protection populaire, mise en place pour instaurer une paix durable. Elle est composée de 5000 hommes déjà déployés dans certains endroits considérés comme foyers de tension, comme le dit Ayuma Adjoubou, le commandant de cette force.
We have our men.
Nous avons nos hommes déployés partout dans les 22 sous-préfectures de l'État de Benue. Ils sont là en attente. Une fois que nous avons des informations sur une situation de crise, ils passent à l'action, essaient de mettre fin à la crise et reviennent dans leurs unités.
Plus de 600 000 personnes déplacées de l'intérieur vivent encore dans 14 camps de déplacés à travers l'État. Depuis son arrivée au pouvoir en mai 2023, le gouvernement du président Tinubu tente de reconstituer l'architecture sécuritaire du pays pour faire face aux énormes défis sécuritaires auxquels le Nigeria est confronté. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, à Makurdi, la capitale de l'État de Benue.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Kenya, le prestige d'avoir un diplôme pousse encore de nombreux jeunes à se tourner vers des études comme la médecine, le droit ou le management, des parcours accessibles mais coûteux. Mais les experts du marché de l'emploi affirment que ces formations ne leur garantissent pas un emploi. Pourtant, certains métiers manquent de bras. C'est pourquoi l'association CFK travaille avec des jeunes de quartiers défavorisés pour leur apprendre des métiers avec des débouchés, davantage avec Dili Diko.
Anastasia Mwende a grandi dans un bidonville du Kenya. Elle a toujours aimé les voitures, mais n'a jamais pensé à devenir mécanicienne. Aujourd'hui, elle est passée d'élève vedette à un emploi à plein temps dans un garage de Nairobi.
J'apprenais les ressources humaines et puis j'ai pensé à ce que mon père m'a dit. Mais quel bureau t'embauchera dans cette économie? D'accord, tu deviens une diplômée en ressources humaines. Ensuite, quelle est la prochaine étape? Je suis venue et j'ai appris la mécanique et j'aime tellement ça. En fait, j'adore. Je choisirais plutôt cela que d'être médecin, pilote ou avocate.
Ces compétences pratiques sont actuellement plus nécessaires que les diplômes sans débouchés, selon des experts comme Jeffrey Okoro, directeur de CFK, une association travaillant avec les jeunes des bidonvilles.
Ce que nous essayons de résoudre en constatant rapidement quel est l'environnement de travail actuel, en investissant dans ces jeunes qui sortent tout juste du lycée, et en leur donnant la possibilité d'acquérir des compétences suffisamment tôt, nous pouvons ainsi les pouvoir obtenir des revenus durables au fil du temps. Il y a un décalage entre les programmes de formation nationaux et le marché du travail.
Une formation rapide avec la possibilité de s'insérer sur le marché du travail et la préférence de beaucoup de jeunes qui cherchent à gagner leur vie. Nicolas, un jeune homme issu d'un milieu très modeste, a voulu commencer à travailler rapidement. Il a appris les soins de beauté et des ongles après une période d'apprentissage.
C'est incroyable car maintenant je peux faire mes achats avec mon propre argent. Je ne dépends de personne.
L'association CFK espère accélérer le processus d'insertion des jeunes sur le marché de l'emploi avec un programme d'apprentissage expérimental. Jane est la propriétaire du salon dans lequel Nicolas travaille.
En ce moment, il n'y a pas d'emploi et on ne peut pas être sûr que l'on ira à l'école et qu'on trouvera un emploi. Ici, c'est pratique, c'est axé sur les compétences. Donc, si vous avez des compétences, vous pouvez travailler n'importe où, vous pouvez créer votre propre business et être indépendant.
Comme partout en Afrique, la population du Kenya est jeune. 80% des habitants ont moins de 35 ans, selon le gouvernement, qui reconnaît les difficultés que rencontrent les jeunes pour trouver un boulot. Des initiatives sont prises par les autorités, mais les fonds sont parfois mal alloués. Pour Jeffrey Okoro, il incombe aux organisations caritatives comme CFK de combler le vide.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
La FIFA a financé et ouvert les portes d'une académie des talents en Mauritanie au grand bonheur de jeunes enfants et des autorités. L'instance mondiale du ballon rond a aussi annoncé un financement de son programme FIFA Forward 3.0 qui permettra de rénover et d'agrandir le stade Cheka Boydia. Les détails avec Yacouba Ouedraogo.
Jeunes, autorités de la FIFA et du foot mauritanien, tous mobilisés en ce jour spécial pour deux événements historiques et décisifs pour l'avenir du ballon rond en Mauritanie. Le premier, c'est l'inauguration de l'Académie des talents de la FIFA, première du genre en Afrique, qui a ouvert ses portes à Nouakchott. Bénéficiaires et donateurs se réjouissent de ce joyau, à commencer par Jill Ellis, directrice du football de la FIFA.
Je pense que c'est un jour merveilleux, non seulement pour la Mauritanie, mais aussi pour la FIFA. La collaboration entre les deux, le fait de voir les choses se concrétiser, le lancement de l'académie, les enfants qui jouent et la célébration de ce que nous mettons en œuvre ici, c'est un jour très gratifiant.
Pour Gelson Fernandez, responsable adjoint des associations membres de la FIFA, il s'agit pour l'instance du foot de ratisser le plus large possible pour découvrir de nouveaux talents.
Je pense que la première chose à faire est de s'assurer que nous ne manquions aucun talent en Mauritanie. Nous voulons trouver tous les talents, chacun d'entre eux, et leur donner une chance. C'est la devise de l'académie, donner une chance à chaque talent. À partir de là, il s'agit de les développer et de les former pour qu'ils deviennent les prochains joueurs de l'équipe nationale et, espérons-le, les prochaines légendes de ce continent.
De cette académie devraient sortir de jeunes talents mauritaniens qui rêvent de revêtir un jour le maillot de leur sélection nationale. Ils pourront alors jouer devant parents et fans dans le stade Cheka Boydia, dont la capacité va passer de 8000 places à 16000 grâce à un financement du programme FIFA Forward 3.0, près de 2,9 millions de dollars américains. Pour le président de la Fédération mauritanienne de football, Ahmed Yaya, cette aide tombe à point nommé.
C'est exceptionnel. Ça va changer l'image de notre football. C'est un stade moderne, même si c'est 16 000 places, mais il va donner l'impression d'un très grand stade et couvert avec toutes les commodités et les normes d'un stade aux normes internationales pour la FIFA.
La balle est maintenant dans le camp de ces jeunes talents mauritaniens qui devront prouver à leurs premiers responsables et à la FIFA qu'ils ont eu raison de croire en eux en leur offrant un tel cadre d'apprentissage.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe de la rédaction et la production. Au micro, vous étiez avec Rosine Mounezero, à la mise en onde, Georges Léonard Sagno. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Passez une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir. Together as one.
There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand.